Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Vora sur Radio IDFM avec Francky et Christophe à la technique. Bonjour Francky, bonjour Christophe. Bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France, pour ce nouveau numéro de l'économie en direct. Stratégie académique d'excellence, programme phare d'accompagnement des entrepreneurs et tech permettant de faire le lien entre recherche et business, porté par CY Transfer, Business Unit de CY Cergy Paris Université. C'est le thème de notre émission de ce jour, vendredi 2 décembre. Et avec nous pour en parler, Pierre Vist. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci pour votre présence dans nos studios. Pierre, vous êtes directeur exécutif de CY Transfer, structure d'excellence de CY Cergy Paris Université. Avec vous, nous allons découvrir les missions et le rôle de CY Transfer, son équipe pluridisciplinaire et sur le programme CY EdTech Labs, le développement de partenariats avec des incubateurs et accélérateurs d'entreprises. À vos côtés, Isabelle Hofkens. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jacqueline.
Ravie de vous accueillir enfin dans l'émission. Isabelle, vous êtes chef de projet Educate. Alors, Educate ou Educate?
Alors, c'était Educate et c'est CY EdTech Labs maintenant.
Ah d'accord, très voilà. Bien. Bah voilà, j'ai tout faux. Et de l'ingénierie de projet pour CY Transfer. Avec vous, nous parlerons de votre activité, de la présence de CY Transfer au salon Educatech, qui se tient à la porte de Versailles depuis mercredi jusqu'à ce jour, mais aussi bien sûr du lancement du programme d'accélération CY EdTech Labs.
C'est ça.
Et à vos côtés, Laurent Janin. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Ouh là là, vous avez une voix magnifique. D'accord. Également, merci pour votre présence à notre antenne. Vous êtes directeur adjoint de Tech et du Lab, Tech et du Lab, et enseignant-chercheur au laboratoire Bonheur, Bonheur avec un S, et nous découvrirons pourquoi cette précision est importante. Et vous êtes également, alors je prends ma respiration, maître de conférences hors classe en sciences de l'éducation et de la formation, titulaire de la chaire de recherche Transition 2 des espaces en transition à la transition des espaces, responsable avec Monsieur Jaillet de la plateforme de valorisation de la recherche en sciences de l'éducation et de la formation, TechSolab, Open Lab, technologique pour la société. Avec vous, donc, nous serons au cœur de la recherche scientifique dans un domaine très précis et vous nous détaillerez quels en sont les besoins, les formations, les emplois et la richesse du territoire en ce domaine, ainsi que le lancement des différents programmes de l'université, du laboratoire, de la plateforme que vous dirigez.
Exactement.
Voilà, tout un programme. Merci à tous les trois de participer en direct à ce nouveau numéro de l'économie en direct. Et juste avant de vous donner la parole, nous allons retrouver pour un rapide tour du monde notre conférencier, chercheur en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté, Gérard Vespierre. Bonjour Gérard.
Bonjour ma chère Jacqueline.
Alors Gérard, la colère prend de l'ampleur dans un mouvement de contestation. Je veux parler de ces Chinois en Chine qui manifestent et osent défier le pouvoir, puisque face à la rigueur de la stratégie anti-Covid, ce mouvement vise pour la première fois le Parti communiste et même le puissant Xi Jinping. Qu'est-ce que le chercheur en géopolitique comme vous pense de ces manifestations inattendues ?
Bien, il y a plusieurs Chines, n'est-ce pas? Il y a la Chine que nous fait découvrir par de magnifiques paysages. Il y a la Chine des pandas. Donc voilà, il y a la Chine de la lumière. Et puis, il y a la Chine de l'ombre. La Chine de l'ombre, eh bien, c'est un parti communiste qui est absolument monolithique. Et on a vu cette terrible image de Xi Jinping faisant sortir sortir son prédécesseur, Hu Jintao, n'est-ce pas, de la salle du Congrès, je dirais pratiquement manu militari. Donc même son prédécesseur, voilà, doit être effacé si Xi Jinping veut régner, si je puis dire, mais on est pratiquement dans ce domaine effectivement du royal et du monolithique, et donc il n'y a pas place à la concurrence. Mais la société chinoise, forte de sa diversité, eh bien exprime effectivement une autre réalité de la Chine, et ce que nous avons vu dans les images, et il faut s'attendre à ce que les prochaines années chinoises soient complètement différentes des précédentes années que nous avons connues.
Et donc, vous pouvez développer en quoi faut-il, à quoi faut-il s'attendre dans ces prochaines années ?
Eh bien, il y a d'abord une tendance économique qui va continuer à être au déclin, n'est-ce pas ? La Chine vient des taux de croissance de 8-10%. Cette année, on va finir dans les 3%. Bien sûr, il y a le Covid, mais cette tendance au déclin de la croissance, du ralentissement de la croissance, et là, le ralentissement nourrit le ralentissement, parce que la population chinoise a commencé à diminuer, mais ça c'est la partie visible de l'iceberg. La partie invisible, mais qui va être absolument redoutable, c'est le vieillissement accéléré qui est dessiné dans la courbe et dans la pyramide des âges. À la fin de cette décennie, 25% de la population chinoise aura plus de 65 ans, c'était 5% en l'an 2000, donc ça veut dire un rétrécissement du marché intérieur vraiment très très important.
Et alors, va-t-il falloir s'attendre à plus de manifestations, plus de répression ?
Alors, cela, c'est lié au Covid, n'est-ce pas, et à la privation des libertés. Effectivement, tant qu'il y aura une crise Covid en Chine, nous aurons potentiellement de telles manifestations, répressions, mais je pense que les tensions vont venir dans les prochaines années de la situation économique. Il faut s'attendre à un retournement de l'économie chinoise. La Chine fait de moins en moins rêver, elle va être amenée à s'occuper en priorité de sa situation intérieure.
Merci Gérard. L'autre pays dont vous vouliez nous parler ce matin, c'est aussi un autre pays secoué par une révolte qui apparaît aujourd'hui sans fin. Je veux parler de l'Iran. Les manifestations ne semblent pas faiblir. La nièce du guide suprême a même été arrêtée. Jusqu'où le pouvoir est-il prêt à aller ?
Le pouvoir est prêt à aller jusqu'au bout. Le pouvoir en Iran est dos au mur et il s'est préparé à ce combat. Le pouvoir, depuis des années, sait qu'il va avoir un jour à affronter cette situation. Je me plais à répéter cette phrase d'un président de l'Assemblée nationale iranienne, donc Nateg Nouri, qui en 2018, voyez-vous, a dit « Eh bien, le problème que nous avons n'est pas l'accord nucléaire. Le problème que nous avons est de savoir combien de temps nous allons pouvoir rester au pouvoir. » Et donc, l'autre composante du pouvoir en Iran, ce sont les religieux. Et donc, le grand prédicateur à Mashhad, en charge de la prière du vendredi, donc une responsabilité dans la deuxième ville iranienne, une responsabilité immense, a dit lui aussi en 2018, si le peuple se révolte, nous les religieux, nous serons jetés à la mer. Donc le système intérieur iranien savait très bien que le conflit entre ce pouvoir et la population était inévitable. Donc je pense que cette situation va être très sanglante dans les prochains jours et les prochaines semaines, hélas, hélas, hélas.
Oui. Oui, parce que, comme vous le dites si bien, au fond, le pouvoir se tire une balle dans le pied en agissant comme ça, puisque ça crée des dissensions à l'intérieur, et puis...
Parce que le pouvoir est monolithique, mmh. si vous voulez. Oui. À partir du moment où vous avez un pouvoir idéologique, on le voit en Chine, ou un pouvoir religieux qui est de même nature, vous avez une inflexibilité, une capacité nulle à s'adapter et une volonté de ne pas s'adapter. Il y a une phrase catastrophique du guide suprême en 2019 lors des événements des précédentes émeutes. Il a dit entre les demandes du peuple et les objectifs de la République islamique, je choisirai toujours les objectifs. Donc, voyez-vous, le gouvernement, le pouvoir en Iran ne travaille pas pour le peuple, c'est le peuple qui doit travailler pour le pouvoir.
Alors, en conclusion, est-ce qu'il y aurait une ou des leçons à, selon vous, à tirer de ces fortes agitations du monde ? Parce qu'il y a la Chine, il y a l'Iran, mais il y a d'autres endroits.
Effectivement, et vous avez la Russie qui clôt le triptyque. Donc je pense qu'il y a effectivement, si on prend un petit peu de recul, un grand basculement qui est en train de se passer. 2020-2021, des regards et des discours étaient assez nombreux, mettant en avant les réussites et l'attrait des pouvoirs autoritaires. N'est-ce pas, des pouvoirs autoritaires en Chine, des pouvoirs autoritaires en Russie, et puis il fallait laisser l'Iran mener son propre chemin. Et regardons maintenant, 2 ans après, eh bien, les révoltes pour la liberté se sont levées dans 2 de ces 3 pays, l'Iran et la Chine, et aussi en Russie, où pratiquement 1 million de personnes sont parties pour éviter la guerre, pour éviter le recrutement, sont parties en Géorgie, sont parties en Arménie, sont parties en Kazakhstan, sont parties à Dubaï. Voilà. Et donc, vous avez des peuples qui sont fondamentalement en désaccord avec les pouvoirs autoritaires qui ne font rêver que certains idéologues français.
Merci beaucoup Gérard pour vos analyses, comme toujours uniquement basées sur des faits. Avant de nous quitter, je rappelle que vos écrits, interviews sur toute l'actualité internationale sont accessibles gratuitement sur votre site internet www.lemondedécrypté.com. Il suffit de s'abonner. À dans 15 jours Gérard pour un nouveau tour du monde.
Merci et bonne matinée avec CY.
Oui, absolument. Merci. Au revoir, Gérard. Merci.
Au revoir.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
IDFM Radio, la radio du bien-être, et vous écoutez l'économie en direct consacrée ce matin à CY Transfer. Avec à mes côtés Pierre Vist, directeur exécutif de CY Transfer, structure de CY Cergy Paris Université. Isabelle Hofkens, chef de projet. Alors, je l'ai pas noté, donc redites-le-moi.
CY EdTech Labs.
EdTech Labs, pardon. Et de l'ingénierie de projet pour CY Transfer. Laurent Janin, directeur adjoint de Tech EduLab et enseignant-chercheur au laboratoire Bonheur. Et sans plus tarder, je me tourne vers vous, Pierre Vist. Oui, on a un petit Larsen, non ? C'est moi ? Oui, mais je m'entends plus aussi après. Bon. Donc voilà, Pierre Vist, pardon pour ce... on va dire le problème du direct. Donc Pierre Vist, docteur en physique avec une expérience dans les relations recherche-entreprise. Aujourd'hui, vous êtes directeur exécutif de CY Transfer, créé fin 2021. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours avant CY Transfer ?
Ben, mon parcours, il est celui de quelqu'un qui a d'abord débuté dans la recherche, donc en physique en effet, comme vous l'avez évoqué, et puis qui très rapidement est passé dans le monde de, on va pour faire simple, des relations au sens large, plutôt pas pour faire simple au sens large, des relations avec le monde socio-économique. Faire ce lien entre la recherche et le monde socio-économique. Donc, dans une université pluridisciplinaire, assez proche du modèle de Cergy, l'université de Reims, pour pas la nommer. Après, dans d'autres structures, donc dans des sociétés d'investissement public qui faisaient vraiment sur, qui investissaient sur des technologies de la recherche. Après, dans le conseil en innovation. Et après, dans un, dans une structure un petit peu différente, qui était Télécom Paris. Donc là, on est vraiment plus, on va dire, sur, sur une excellence scientifique, ou en tout cas, qui s'affiche comme telle. Et donc, avant de rejoindre CY Transfer, donc, et de revenir à des choses beaucoup plus pluridisciplinaires, dans un monde universitaire qui m'est aussi bien familier. Voilà.
Oui, très bien. Mais qui finalement correspond cette dernière nomination à toute votre expérience passée.
Je ne sais pas, mais en effet, avoir vu différentes facettes de la valorisation, donc qui couvre aussi bien les aspects création d'entreprise que les aspects justement de partenariat, donc avec toute typologie d'entreprise sur des secteurs extrêmement différents. Bah, je pense que oui, en effet, c'est une brique supplémentaire, voilà, et un élément supplémentaire dans le parcours, voilà.
Voilà, alors avec cette dernière phrase, vous êtes en train de nous rappeler les missions de la structure, hein, CY Transfer, transfert technologique, relations recherche-entreprise, programme innovant d'accélération de projets éducatifs et de start-up. Rappelez-nous à quoi servent ces... Que visent ces transferts?
Alors, la mission déjà de, alors déjà, la mission de CY Transfer, c'est justement de valoriser la recherche. La valorisation se passe par différents canaux. Valoriser la recherche. Donc déjà, en plus, on a une recherche qui est, j'insistais au départ là-dessus, qui est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a aussi bien les sciences de l'éducation que les mathématiques, que la biologie, que la chimie, que l'électronique, que la physique. Enfin, on est sur un champ extrêmement large. Bon. Lié à la pluridisciplinarité de notre université, qui compte aussi à peu près 1000 chercheurs, dont 500 doctorants, voilà, donc c'est-à-dire de 500 jeunes chercheurs qui sont dédiés à temps plein sur la recherche, voilà. Et nous, notre mission, c'est justement de faire cette valorisation. Alors cette valorisation, c'est une valorisation, en effet, sur toutes les disciplines, c'est une valorisation qui se fait de façon assez différente. C'est-à-dire qu'on ne valorise pas du tout la même chose. Typiquement, un matériau qui a été développé dans un laboratoire en chimie, ou un savoir-faire, ou un savoir, une expertise dans le domaine des sciences de l'éducation, qui est le sujet qui nous occupe ce matin. Bon. Donc il y a déjà aussi cette dimension à la fois pluridisciplinaire, des modalités aussi de production entre guillemets scientifique à valoriser qui sont différentes, et des canaux aussi qui vont être très différents. Et donc la mission de CY Transfer, c'est de s'articuler autour de tout ça. Alors des canaux sont très différents. Parce qu'en effet, on a les partenaires. Il y a deux gros canaux pour faire simple. Le premier, c'est de partir des besoins du monde socio-économique, que je ne réduis pas volontairement à l'entreprise.
Hein. Oui.
Du monde socio-économique, donc partir de ses besoins et de monter des partenariats. Ces partenariats, là aussi, ils peuvent être extrêmement différents. Ça peut être, par exemple, caractériser un matériau à l'aide d'un microscope qu'on a dans nos laboratoires pour répondre à un besoin d'une PME, voire d'une TPE locale. Ça peut être répondre aux besoins d'une expertise sur une problématique de recherche bien déterminée, donc là, cette fois-ci avec un acteur beaucoup plus grand, un groupe, hein, pour par exemple. Et donc ça, c'est partir vraiment du besoin des entreprises. À l'autre bout, il y a une autre. On peut aussi partir des technologies et des savoirs développés par les chercheurs. Et les amener, les faire en sorte qu'ils soient valorisés par les acteurs socio-économiques. Bon, il y a deux voies. Soit on transfère ce savoir et ces technologies directement à l'entreprise, donc en l'adaptant, bien entendu, pour que l'entreprise l'intègre et puisse en faire quelque chose qui soit intéressant économiquement pour elle, accroître sa compétitivité, etc.
Mmh, oui.
Et puis il y a une autre voie, qui est celle de la création d'entreprise. La création d'entreprise par les chercheurs et pas uniquement. C'est-à-dire que là, typiquement, dans le programme qui nous intéresse ce matin, et j'assure la transition aussi à ce niveau-là, c'est aussi accompagner des porteurs ou des start-up, les accompagner en apportant essentiellement une expertise scientifique ou technologique au niveau des laboratoires. Donc on voit qu'on couvre un champ dans l'émission de Civa Transfert qui sont extrêmement larges.
C'est très large, oui. Hein,
donc qui sont extrêmement larges. Alors, on parle aussi, on peut avoir aussi un autre champ hein, qui est celui de l'accompagnement des étudiants, parce qu'on a des études, il y a des programmes, il y a des programmes de création d'entreprises portés par l'État depuis plus d'une dizaine d'années à travers ce qu'on appelle les programmes TEPIT, etc. Et CY Transfer intervient aussi en interne avec nos collègues de CY Entreprendre. Parce que tout est CY, hein, comme vous l'avez compris au niveau de l'université. Donc CY, hein, CY. Et donc, il y a aussi cette dimension-là. Donc, on intervient sur un grand champ de disciplines, avec des modalités de valorisation qui sont extrêmement différentes, toute typologie d'entreprise, aussi à des échelles géographiques très différentes. À l'échelle du territoire, qui peut être très proche. J'évoquais tout à l'heure les groupes, ben, ils sont à une échelle nationale, et puis évidemment, comme université, et les chercheurs, par essence, travaillent évidemment beaucoup à l'international. On a aussi toute une dimension internationale dans notre valorisation également. Donc, différentes modalités, donc des choses extrêmement riches, foisonnantes, et essayer un petit peu d'articuler tout ça, et c'est un petit peu le rôle et la mission de CY Transfer.
Voilà, l'objectif étant de vous positionner comme porteur d'affaires pour CYU et puis d'accroître les ressources financières.
Exactement.
C'est bien ça.
La mission qui est clairement affichée dans les objectifs de CY Transfer, c'est d'être justement cet apporteur d'affaires. C'est un modèle qui, à l'échelle d'une université, de mon point de vue, est assez unique, parce que souvent ces missions, ça suppose être apporteur d'affaires, ça suppose d'avoir une dimension un peu commerciale aussi.
Oui.
Et quand je dis que c'est relativement unique, parce que souvent les universités confient cette mission-là à d'autres acteurs et ne l'intègrent pas en interne.
Des acteurs externes.
Externes, publics, hein, oui. Comme les SAT, par exemple, les sociétés d'accélération de transfert de technologie, qui, elles, sont chargées, en gros, pour faire simple, hein, de vendre les technologies et le savoir, mais pour le compte des établissements. Et là, c'est la spécificité de CY Transfer, c'est vraiment d'intégrer justement cette dimension apporteur d'affaires, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays. Typiquement, quand on regarde ce qui se fait pas bien loin en Europe d'ailleurs, hein, même en Suisse, etc., les universités assurent elles-mêmes cette commercialisation directement. Donc voilà, donc il y a une dimension qui est assez intéressante. Et donc, le fait de l'intégrer au sein de l'établissement dans une structure, évidemment, on voit bien l'intérêt que ça peut avoir aussi, parce que ça permet de faire des liens qui sont beaucoup plus faciles à établir, etc.
Évidemment.
Voilà. Donc, cette dimension est assez intéressante. Voilà.
Les initiatives que vous proposez sont, j'imagine, accueillies favorablement par les PME, les groupes dont vous parlez, puisque, enfin, les groupes peut-être n'ont pas cette même vision, puisqu'ils ont parfois des moyens financiers qui leur permettent de faire de la R&D, mais les PME, elles, qui ont des moyens moindres, doivent vous accueillir très les bras ouverts.
Alors,
lorsque vous les consultez.
Elles nous accueillent les bras.
Vous aimeriez bien, peut-être.
On aimerait bien davantage, très honnêtement. Et c'est un grand défi qui dépasse largement le cadre universitaire, enfin, qui dépasse largement notre problématique au niveau de CY, qui est une problématique qu'on rencontre quand même pas mal en France. C'est-à-dire qu'on a des PME et des TPE qui ont du mal, mais nous aussi, nous avons du mal à rentrer en relation avec elles. Hein. Et l'objectif, ce qu'on souhaiterait, et on a la chance d'être dans un territoire, le Val d'Oise, où il y a quand même une volonté, peut-être plus qu'ailleurs, que ce lien entre l'université et les entreprises soit le plus développé, enfin que les liens se tissent le plus aisément possible. Bon, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Nous avons une grande part du chemin à faire. Alors on le fait pas tout seul. Hein. On va le faire avec un certain nombre de partenaires qui sont, par exemple, le CEVO, hein, le Comité d'Expansion Économique, les CCI, enfin la CCI. CCI, la communauté d'agglomération de Cergy, le conseil départemental, enfin voilà, tout un tas d'acteurs, et j'en oublie certainement, ils nous pardonneront aussi, donc qui ont ce souci justement de faire en sorte que le lien entre l'université et les entreprises au niveau local s'opère pour le mieux. Pour les groupes, c'est un petit peu différent. Les groupes, vous avez raison, ont beaucoup d'activités en R&D en interne, mais depuis à peu près 20 ans, bonne vingtaine d'années, les groupes externalisent beaucoup aussi, leurs recherches, oui. Énormément. Mmh. Il y a eu des effets, bon ça c'est lié entre autres au crédit impôt recherche, etc. Bon, oui. Voilà. Il y a une externalisation de la R&D qui est une opportunité aussi pour des établissements comme les nôtres, parce qu'on est souvent, à l'échelle de Cergy en tout cas, et c'est un autre axe de travail, au-delà en effet de favoriser le lien entre les laboratoires et les PME du territoire, un autre champ d'intervention sur lequel nous devons nous focaliser, c'est celui d'amplifier et de développer la relation avec les groupes. J'étais à Télécom Paris voilà, il y a quelques mois encore. Pour les entreprises, les groupes, voilà, la recherche, bon, Télécom Paris, le plateau de Saclay, Polytechnique, tout ça c'est clair, c'est évident, il y a des liens naturels, bon, pour plein de raisons. Les patrons du CAC 40 ont fait soit Polytechnique, soit Télécom Paris ou autre, enfin voire les deux, donc les liens se font naturellement. Nous à Cergy, on est un peu moins bien identifié, à tort, à grand tort d'ailleurs, par les groupes, hein, et dans les contacts qu'on peut prendre. L'objectif que l'on a, c'est de montrer que l'on peut faire une recherche de qualité à Cergy aussi bien que sur le plateau de Saclay. Donc il y a aussi cette dans notre mission, enfin au niveau de CY Transfer, enfin en tout cas dans l'intérêt qu'on porte, il y a aussi ce souci de montrer, on est ancré dans le territoire, mais il y a aussi ce souci de montrer que ben sur le territoire, il y a une université qui fait une recherche de qualité qui peut intéresser d'autres acteurs, typiquement des gros, et on n'a pas à rougir de la qualité de nos travaux et de notre recherche. Voilà.
Oui, c'est certain. Peut-être que votre faiblesse aujourd'hui, c'est parce que vous êtes très jeune encore, puisque CY Transfer est créé depuis peu.
Exactement.
C'est ça. Donc vous avez tout à prouver. Ces partenariats peuvent être d'ailleurs associés à des brevets, je suppose également.
Oui, alors c'est un champ qui est relatif. Oui, alors à des brevets, et puis il faut des. Alors. Oui, il y a des brevets, mais faut aller au-delà des brevets justement, hein, parce que les brevets, déjà, on peut pas tout breveter. Hein. On brevette, il y a des critères très précis, hein, donc bon, pour avoir un brevet. Et le problème d'un brevet aussi, c'est que c'est coûteux. Bon, donc pour un établissement, c'est quand même un gros point de vigilance aussi, parce que ça coûte très cher. Bon. Donc, on s'appuie sur des brevets, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on peut valoriser, comme je disais tout un peu en introduction, on peut valoriser tout un tas de choses, le valoriser d'un point de vue économique, bien au-delà du brevet. On peut valoriser un logiciel sans qu'il y ait un brevet. On peut valoriser un savoir-faire, une expertise économiquement auprès d'une entreprise ou d'un acteur, une collectivité, etc., sans qu'il y ait forcément un brevet. Voilà. Donc, le brevet n'est qu'un élément parmi d'autres. Il a plein de qualités, bien sûr, mais il a surtout pas un défaut, mais malgré tout, il coûte cher. Donc, les établissements sont obligés de regarder à deux fois avant de prendre des brevets. En tout cas, c'est un point de vigilance qu'on en a, parce que un brevet, très rapidement, peut prendre une dizaine de milliers d'euros. Quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Et puis, peut-être rallonge la mise en service de l'innovation, probablement. Non, pas forcément.
Pas forcément. Non, pas forcément, parce que par nature, les temps de transfert et de mise en service de l'innovation sont longs, indépendamment du brevet. Donc, c'est une de nos difficultés, hein, et c'est une des difficultés justement du transfert, c'est qu'on est sur des temps qu'il faut réduire, mais qui sont très longs. Tout simplement parce que quand on fait du transfert, il faut intéresser un industriel. L'industriel, il n'est pas toujours forcément demandeur. Donc on est vraiment dans une démarche où il faut l'acculturer, il faut l'approcher, etc. Il faut qu'il puisse s'approprier la technologie, donc s'approprier aussi d'un point de vue en termes de développement technologique, parce que nous on est à un certain niveau de développement, l'industriel il veut commercialiser un produit, donc il y a tout un fossé qu'il faut combler, et c'est ça aussi qui prend du temps. Et ça c'est un petit peu indépendant, ça dépend bien entendu de la ziblibine. Si on est dans le domaine de la santé, on va être sur des temps qui vont être extrêmement longs. Nous on a cette chance de ne pas être sur ces champs-là. Bon, mais il n'empêche que, et on le voit bien sur un certain nombre de projets qu'on a chez nous, des technologies, bah, c'est que le transfert prend plusieurs années. Voilà. Donc il faut qu'on travaille aussi là-dessus, à notre niveau, et puis collectivement avec d'autres acteurs.
Oui, vous êtes en train de dire que malgré les nouvelles technologies, les méthodes des chercheurs sont toujours longues et n'ont pas accéléré par rapport à d'autres années avant.
Alors c'est indépendant du développement, c'est indépendant des technologies. C'est-à-dire qu'on est sur des processus qui sont toujours les mêmes, qui sont à la fois c'est des processus entre guillemets humains. C'est-à-dire que il y a humain et structurel. C'est-à-dire que l'entreprise a ses propres problématiques. Si on veut en effet transférer une technologie qui vient de nos laboratoires, bien comme je disais, il faut que ça culture cette technologie. Il faut qu'elle puisse se l'approprier d'un point de vue technologique pour pouvoir en faire un produit commercial. Et ça, à moins de mettre des moyens, notamment humains, importants, et c'est là, qui dit moyens humains importants, dit évidemment des budgets importants. Évidemment, une entreprise, elle est capable de mettre sur le marché quelque chose en très peu de temps, mais à condition de mettre en effet des moyens. Donc derrière, on reboucle sur des problématiques de moyens humains et donc de budget. Voilà.
Pierre Vist, vous nous avez bien expliqué l'activité pluridisciplinaire de CY Transfer, donc ça veut dire une équipe pluridisciplinaire. Quelques mots sur cette équipe?
Alors là aussi, c'est une spécificité justement de CY Transfer, peut-être plus qu'ailleurs, c'est qu'on a des gens avec des profils extrêmement différents. On a Isabelle, donc qui a un profil qui vient plutôt historiquement du monde de la recherche, et donc avec une coloration beaucoup plus forte sur tout ce qui est le montage de projet. On a quelqu'un aussi qui est plus sur la partie marketing et communication. La communication est un élément important dans nos métiers, qui n'est pas suffisamment exploité. Et on a cette chance d'avoir une dimension communication et des compétences à ce niveau-là dans l'équipe, à travers deux personnes, voilà. Et donc, on devrait aussi avoir très prochainement une équipe qui va s'étoffer avec l'arrivée justement de quelqu'un qui va être un business développeur.
Voilà. On en parlera à la fin. Je sais que vous avez une offre d'emploi à proposer.
Exactement.
Donc, merci Pierre Vist. À présent, l'actualité, c'est le programme d'UNIC d'accélération français autour des tech. Donc, je vous laisse nous en dire quelques mots. Même si Isabelle va nous en parler plus longuement, mais peut-être vous nous présenter.
Alors ce programme-là, déjà, c'est, puisque je parlais justement de la visibilité de Cergy, qui était un point important, donc là c'est un petit peu, pas un cocorico, mais en tout cas une certaine fierté qu'on peut avoir. Alors on a été, bien entendu, c'est pas une initiative qui est conjointe, qui a été portée par d'autres acteurs, à savoir que c'est la déclinaison, une adaptation au niveau national d'un programme international qui est porté par UCL, donc c'est-à-dire University College à Londres, qui est une référence dans le domaine des sciences de l'éducation et qui a lancé un programme d'accompagnement de start-up sur ce champ-là. Voilà. Et cette initiative a été reprise, notamment avec l'aide du conseil départemental du Val d'Oise, ça a associé évidemment l'université, les chercheurs, et donc nous sommes ici dans une déclinaison de ce programme-là au niveau national, sachant qu'il y a un autre programme au Canada, à Toronto de mémoire, mais je laisserai Isabelle apporter toutes les précisions également à ce niveau-là. Voilà, donc on est assez satisfait d'avoir obtenu ce label qui nous permet justement, qui contribue aussi à nous donner une visibilité, puis bien entendu de remplir notre mission qui est celle de l'accompagnement des startups. Voilà.
Bien sûr, et de vous donner forcément une meilleure visibilité. Pierre Vist, quels sont vos besoins en tant que directeur exécutif de CY Transfer?
Nos besoins, ils sont en effet d'essayer de comment dire de de continuer à réduire ce fossé ou de entre le monde de l'entreprise et l'université. Donc ça passe notamment par un certain nombre d'actions qu'on mène localement et donc on est complètement à la disposition des entreprises et des PME, des TPE du Val d'Oise, hein, pour puisqu'on est ici une radio donc qui rayonne sur ce territoire. J'allais dire, nos besoins, eh bien, c'est de faire en sorte que l'on puisse se rencontrer, que l'on discute. Alors, on a un gros travail, nous, hein, de communication, etc. Donc, comme je disais, on ne le fait pas seul. Hein, on a des partenaires avec lesquels on travaille. Mais on profite, en effet, du fait qu'on a ce temps d'antenne pour inviter les PME, les TPE du Val d'Oise donc à aller regarder, notamment sur notre site CY Transfer. Alors, il n'est pas parfait. Hein, on a encore un gros travail aussi à faire à ce niveau-là. Mais, voilà, à nous contacter pour qu'on puisse échanger sur leurs besoins. Parce que c'est d'abord ça, hein, partir des besoins des entreprises pour essayer, nous, de les traduire en offres de technologies que l'on pourrait avoir, technologies et d'expertise et voilà, de savoir-faire sur tous les champs que l'on a au sein de l'université.
Écoutez, c'est parfait. Vous répondez à ma question avant que je vous la pose, à savoir comment vous contacter si des entrepreneurs sont attirés par cette proposition de partenariat. Ce sont des références que nous retrouverons bien sûr sur le podcast. Donc vous avez des offres d'emploi proposées, nous pouvons les passer à l'antenne également, donc je vous en prie.
Alors l'offre d'emploi, ben c'est celle qui correspond à une compétence que nous n'avons pas encore, en tout cas voilà, en interne, qui est celle d'un business developer. Donc on cherche plutôt quelqu'un avec un profil à la base technique, sur voilà technique hein, sur des enfin voilà oui technique et avec une dimension une expérience commerciale donc typiquement un profil de technico commercial et avec quelqu'un qui serait capable de travailler de s'interfacer avec des acteurs assez différents parce qu'en effet dans notre métier on travaille bien évidemment avec des entreprises donc toute typologie d'entreprise hein, on travaille aussi bien avec des patrons de PME voire de toutes petites entreprises qu'avec des acteurs un peu plus gros on travaille avec des chercheurs avec des ingénieurs, avec des collectivités aussi, même si sur ce type de poste, c'est peut-être ce sera un tout petit peu moins présent. Donc voilà, quelqu'un donc un profil technique, une expérience commerciale, et puis une capacité justement à certains facets, à dialoguer avec des acteurs différents. Voilà nos besoins, et donc c'est un poste qui va être qu'on souhaite évidemment, on souhaite recruter le plus rapidement possible pour nous aider justement à continuer à progresser sur les missions, enfin sur les objectifs que nous sommes fixés, à savoir être justement apporteur d'affaires et contribuer justement donc à resserrer ce lien entre le monde académique et les entreprises.
Donc le site pour répondre à cette offre d'emploi, c'est la même adresse que pour les partenariats.
Oui, exactement. Il faut c'est qu'on ça. Nous contacter directement. L'offre n'est pas voilà, l'offre n'est pas encore diffusée, mais voilà, donc c'est la première fois qu'on en parle d'ailleurs. Voilà, mais il faut qu'on nous contacter directement par l'intermédiaire du site. Voilà.
Merci beaucoup Pierre Vist pour cette présentation et votre témoignage et puis bravo pour cette stratégie académique d'excellence et nous retiendrons toutes les opportunités qu'offre votre formidable écosystème. Merci. Avant de continuer avec Isabelle Hofkens, on marque une première pause. À tout de suite. I'll be your algorithm. Follow your body and watch every way you move. I'll be your algorithm. Your algorithm, I'll be your algorithm. Every step you take, every choice you choose, I'll be your algorithm. Your algorithm. Maybe you got a lot of followers, but that don't mean much to me, because all they're doing is clicking their fingers, but they're never gonna know your universe. I'm gonna give you what you need. You don't know, but I already sowed the seed. Spend time in my everlasting feed. We were made for each other. I'll be your algorithm. Follow your body and watch every way you move. I'll be your algorithm. Be your algorithm. I'll be your algorithm. Every step you take, every choice you choose, I'll be your algorithm. Your algorithm. You know you got a lot of likes in your last post, the new app that you made up, you portrayed or pimped up a new you.
look and suit up. There was loving emojis. How I love you so deeply. Our connection is growing so sweetly. On days when you're low, I can show you the world. I'm starting to know you completely. I'll be your algorithm. Follow your body and watch it the way you move. I'll be your algorithm.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin nous nous intéressons à CY Transfer, programme d'excellence de Cergy Paris Université et sa volonté de faire le lien entre la recherche scientifique et le business. Avec toujours à mes côtés Pierre Vist, directeur exécutif de CY Transfer, structure d'excellence de CY Cergy Paris Université, Isabelle Hofkens, chef de projet CY EdTech Labs et de l'ingénierie de projet pour CY Transfer, Laurent Janin, directeur adjoint de Tech EduLab et enseignant-chercheur au laboratoire Bonheur. Et nous enchaînons avec vous, Isabelle Hofkens. Donc, chef de projet CY EdTech Labs et de l'ingénierie de projet pour CY Transfer. Pouvez-vous nous en dire plus?
Donc, du coup, je suis arrivée à CY Transfer au 1er janvier et j'ai pris la responsabilité de ce programme CY EdTech Labs qui avait été mis un petit peu entre parenthèses pendant la pandémie.
Oui,
puisque les relations avec Londres étaient du coup au point mort. Et puis, je suis aussi responsable de toute l'ingénierie de projet, c'est-à-dire le montage de projet pour les partenariats avec les entreprises et que ce soit du partenariat B2B ou que ce soit de la réponse à de l'appel à projet sur fonds publics. Donc, voilà. Et là, effectivement, on est là pour parler du programme, puisqu'on a été pendant 2 jours là sur le salon Educatech pour en faire la promotion. Donc c'est un programme qui existe depuis 4 ans à Londres, qui a été lancé par Londres. Ils font deux cohortes d'accompagnement par an depuis 4 ans. Il existe depuis 1 an à Toronto. Donc il y a déjà 2 cohortes canadiennes qui sont sorties et nous le lançons enfin sur le territoire français à Cergy avec une première cohorte prévue pour le 1er février 2023. On est en cours de sélection des candidatures. Donc voilà. Donc c'est un programme d'accompagnement qui est on vise 4 profils.
Peut-être Isabelle, si vous me permettez, pour nos auditeurs et auditrices, je vais dire que le Educatech, c'est le salon de l'innovation éducative, incontournable pour les professionnels du numérique éducatif.
C'est le salon qui est dédié à l'éducatif et notamment au numérique avec toutes les start-up et les PME et les grandes entreprises qui viennent présenter leurs solutions pédagogiques.
Voilà, merci. Excusez-moi, je vous ai coupé.
Donc du coup, c'est le programme qu'on lance est un programme d'accompagnement et d'accélération qui va être destiné à un quatre profils différents. Les ETI PME, qui sont déjà existantes et qui souhaitent développer de nouveaux produits. Les start-up, déjà créées ou en cours de création. L'intrapreneuriat, donc du personnel d'une entreprise qui souhaite créer une sa propre entreprise sur des produits. Et les étudiants entrepreneurs. Puisqu'on a à CY plusieurs étudiants entrepreneurs qui sont en train de monter des projets de création d'entreprise sur des solutions dédiées à l'éducation.
Oui, avec un autre département que nous connaissons bien.
Oui, tout à fait, avec CY Entreprendre. Ouais. Ce programme, il va être constitué en fait d'un triptyque. Il y a un accompagnement un petit peu plus business et commercial, où on va leur donner le B.A.B.A. de la gestion et de la création d'entreprise. Donc ça va être assuré par nos collègues de Londres, qui ont déjà éprouvé le concept. On a une partie qui va être un peu plus liée aux spécificités du marché français et de la filière EdTech en France, où là on va prendre des partenariats avec EdTech France et Afinef, qui sont les deux grands réseaux d'entreprises de cette filière, et puis aussi avec des cabinets conseils, parce qu'il y a des spécificités légales, réglementaires, fiscales en France,
oui,
que nos collègues anglais ne pourront pas faire eux-mêmes. Mmh. Et puis la troisième partie qui, pendant le salon, nous a permis de voir que c'était cette partie-là qui intéressait le plus, au final, les entreprises, c'est la partie expérimentation. On va leur donner la possibilité d'être accompagnés par les enseignants-chercheurs de nos quatre laboratoires en sciences de l'éducation et de notre plateforme d'innovation pédagogique pour faire une expérimentation sur leurs produits, pour valider ou améliorer, en fonction des résultats de l'expérimentation, le produit qu'ils souhaitent mettre sur le marché. On va leur proposer en fait de l'expérimentation en terrain réel, puisqu'on a déjà notre lab à l'université et qu'on est en discussion avec la communauté d'agglo de Cergy-Pontoise pour avoir accès à des écoles primaires, avec le département pour un ou deux collèges, et qu'on va commencer à discuter avec la région pour un lycée. Donc on va essayer d'avoir les quatre niveaux
dans les champs possibles.
Que la start-up qui se présente à nous et qu'elle ait un produit qui soit pour le primaire, pour le collège ou pour le lycée, on puisse lui fournir un terrain d'expérimentation.
Et surtout, c'est peut-être la même chose, mais vous avez des incubateurs à CY Transfer.
Alors, on n'a pas d'incubateur, mais on est en relation avec plusieurs incubateurs.
Oui.
Donc, on va avoir la possibilité, effectivement, en fonction de leurs besoins, de pouvoir les orienter vers les bons incubateurs. On est nous-mêmes CY Transfer hébergés dans un incubateur, puisqu'on est à la Turbine sur le port de Cergy. Donc, par le biais de la CACP, il y a plusieurs incubateurs vers lesquels on pourra diriger ces entreprises qui en auront besoin, et même au-delà du territoire. Donc on a des liens avec des incubateurs sur Paris, on a des liens avec des incubateurs sur Saint-Germain-en-Laye. Donc voilà, on va aussi en prendre en province, puisque notre programme est national. Donc on a eu des contacts sur le salon avec des entreprises qui ne sont pas de région parisienne, qui seront intéressées par le programme.
Est-ce qu'on peut dire que ce programme est une vraie valeur ajoutée pour CY Transfer ?
Alors, oui, c'est une vraie valeur ajoutée pour CY Transfer, parce que ça nous permet, ça permet de proposer un accompagnement qui est complet. Mmh. En fait, on a toute la chaîne et on remplit pleinement notre mission, qui est effectivement de faire ce lien entre le scientifique et le développement commercial, en fait, puisque c'est vrai qu'on a rencontré là sur le salon des gens qui nous disent je suis en train de développer, j'ai eu une idée, j'ai l'intuition que ça doit se faire comme ça, le produit fonctionne, je l'ai testé sur une classe ou deux et ça a l'air de fonctionner, mais maintenant j'ai besoin d'éprouver scientifiquement parlant si ça tient la route et si on va pas me dire à un moment donné ce que vous avez mis dans votre outil ça marche pas, c'est pas comme ça qu'on doit faire.
Bien sûr.
Voilà.
Oui.
Donc et ça ils ont pas forcément les clés pour pouvoir de prime abord venir rencontrer nos enseignants chercheurs. Ils y pensent pas forcément, ils savent pas forcément comment faire, et nous on fait un petit peu office de ce pont de cette liaison en fait, et on est aussi un petit peu la petite boîte décodeur qui permet aux gens de se parler, parce qu'ils n'ont pas forcément le même vocabulaire.
Oui, c'est ça, oui. Il faut arriver à parler le même langage.
C'est ça, voilà.
Donc vous êtes en train de nous dire que ce programme est ouvert également à toute typologie de personnes.
Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait, c'est ouvert, en gros, c'est ouvert à toute toute personne qui développe un produit dans le numérique et l'éducation, à part les grands groupes,
oui.
Puisque on n'a pas vocation là, voilà, à quoi les grands groupes par définition sont déjà bien implantés et savent faire, et ils ont déjà en interne des équipes de R&D. Mais vraiment, c'est voilà, pouvoir aller chercher l'innovation pédagogique et pouvoir la faire émerger, sachant que c'est un marché très particulier et qu'il faut avoir ses points d'entrée pour pouvoir accéder justement aux enseignants, pour pouvoir oui. accéder aux élèves. On peut pas le faire comme ça sans avoir des liens avec le ministère, des liens avec le rectorat.
Oui.
Et ça, c'est des choses que nos enseignants-chercheurs peuvent aussi apporter, puisque dans leur recherche au quotidien, ils ont ces liens-là.
Bien sûr. Alors, concrètement, que trouvera-t-on dans ce programme ? Puisque moi, j'ai vu qu'il y avait des workshops.
Alors, il va y avoir des... Alors, on n'a pas encore défini tout à fait le nom. Oui. Ça sera des workshops, des masterclass. Enfin, voilà, on ne sait pas trop comment ça, on va les appeler. Il faut qu'on définisse tout ça, parce qu'il y a un petit peu de... Comme on duplique le programme de Londres, il y a des choses qu'on va devoir reprendre dans leur manière d'annoncer les choses. Mais donc voilà, donc il y aura des. C'est un programme sur 12 semaines, avec à peu près une journée par semaine de masterclass ou workshop. Et le reste du temps, c'est de l'accompagnement personnalisé et sur mesure. En B2B, c'est-à-dire l'entrepreneur et nos chercheurs, avec un rythme qui sera défini en fonction des besoins, puisque dans le dossier de candidature, en fait, ce qui est clairement demandé, c'est qu'ils nous définissent ce qu'ils attendent de nous, et en fonction de si on peut y répondre ou pas,
on
pourra les faire intégrer la cohorte. Donc c'est 12 semaines, une journée par semaine à peu près de workshop masterclass sur. Sur la totalité, il y aura un tiers en présentiel, le reste en distanciel. C'est parce que un peu de présentiel, c'est pas parce que c'est nécessaire pour la masterclass, mais ça va permettre de créer un esprit un
oui,
petit peu
sûr,
d'équipe, et ils vont pouvoir échanger entre eux aussi,
bien sûr.
Ce qui peut être important. Et puis le reste, ça sera de l'accompagnement personnalisé avec des programmes qu'on aura mis en place avec les enseignants-chercheurs qui seront impliqués dans l'accompagnement des startups.
Voilà, et c'est là où Laurent Jeannin nous en parlera, puisqu'il y aura l'accès au laboratoire.
Voilà.
Donc, votre besoin aujourd'hui, c'est de faire relayer votre appel à candidature.
C'est ça, voilà. Donc, il y a une page CY Tech Labs sur le site de CY Transfer, où vont être déposés dès la semaine prochaine l'appel à candidature et le dossier de candidature. On est en train de les finaliser. Et à partir de là, il faudra que les entreprises intéressées nous retournent un dossier. On étudiera le dossier, on sélectionnera un certain nombre d'entreprises pour une audition. Parce que c'est important de discuter avec
bien
les
sûr.
Gens de leur motivation et de leur envie de s'intégrer au programme. Et puis, on sélectionnera un certain nombre d'entreprises pour la cohorte du mois de février. La cohorte du mois de février, comme ce sera la première, sera un tout petit peu plus petite que les cohortes suivantes.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Vous vous attendez à combien de... Enfin, vous voulez combien de...
Je pense qu'on sera... Je pense qu'on sera confortable dans le lancement de la cohorte si on pouvait avoir entre 5 et 10 entreprises à accompagner sur cette première cohorte pour le passer à une quinzaine, voire une vingtaine d'entreprises sur les cohortes suivantes.
Très bien, oui, pour pouvoir évaluer tous les besoins se perfectionner au
c'est
fur et
ça.
À mesure. Très bien.
Voilà.
Donc toujours pour cet appel à candidature, la même adresse.
Toujours, oui, il y a une adresse. Enfin, c'est tout. Ça sera CY Transfer qui recevra toutes les candidatures. Et puis surtout que les gens intéressés n'hésitent pas à nous contacter en amont s'ils ont des questions, plutôt que de remplir
bien
un
sûr.
Dossier de candidature à côté.
Oui.
Donc voilà. Et c'est où il n'y a pas de critères d'éligibilité particuliers.
D'accord.
Voilà.
Ouais, c'est important de le dire.
Voilà. C'est à partir du moment où la taille de l'entreprise est respectée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la catégorie grandes entreprises. Il n'y a pas de voilà, on peut remplir un dossier. Il n'y a pas besoin d'être en cours de création ou juste créer des entreprises qui existent déjà mais qui veulent développer un nouveau produit.
Voilà, c'est surtout le but, c'est avoir envie ou besoin de développer un nouveau produit.
En fait, vraiment l'objet, c'est d'avoir envie parce que certaines entreprises auront peut-être pas besoin de toutes les masterclass. On va faire des choses un petit peu à la carte. Ils sont pas obligés de suivre les masterclass dont ils n'ont pas besoin.
Bien sûr.
Mais c'est vraiment de nous décrire ce qu'ils attendent de nous en matière d'accompagnement, notamment scientifique, puisque ça sera là notre plus-value.
Très bien. Isabelle, vous avez également des offres d'emploi proposées ?
Alors, c'est pas des offres d'emploi, c'est des offres de stage.
De stage.
Voilà.
Oui.
Donc, pour CY Transfer, déjà dans un premier temps, on a 3 offres de stage qui sont déjà publiées. Une assistante de valorisation, un business développeur en stage et un chargé de on en a quatre, un chargé de partenariat et un chargé d'ingénierie de projet. Voilà, donc du coup, ça nous permettrait de, pendant 6 mois, de pouvoir agrandir un petit peu l'équipe. Et côté CY, le programme CY EdTech Labs, on va aussi avoir besoin de 2 stagiaires. On va lancer les offres de stage là la semaine prochaine. On va rechercher un stagiaire en data management, puisque les expérimentations vont générer beaucoup de data et qu'il va falloir les gérer. Et puis un stagiaire un peu plus niveau M2 recherche, on va dire, qui pourra participer à l'accompagnement de la cohorte.
Oui.
Voilà, à proprement parler. Et donc, ça permettra de soulager un peu nos équipes d'enseignants-chercheurs sur l'accompagnement de la cohorte au jour le jour.
Très bien. Merci beaucoup Isabelle. Donc ces offres se retrouveront comme je l'ai dit dans le podcast. Donc merci pour la richesse de ces échanges et puis vos actions à soutenir ces projets éducatifs inspirants. Merci.
Merci.
On fait une nouvelle courte pause avant d'entamer la troisième partie avec Laurent Jeannin. It's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play. Make a mess right here. Do whatever. I like it weird. Okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear. Just stay. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio, lancement du programme CY EdTech Labs, ainsi que la présence de CY Transfer au salon Educatech. Et sur les thèmes de l'émission, sont les thèmes de l'émission, et je suis toujours en compagnie de Pierre Vist, directeur exécutif de CY Transfer, Isabelle Hofkens, chef de projet CY EdTech Labs, Laurent Jeannin, directeur adjoint de Tech EduLab et enseignant-chercheur au laboratoire Bonheur. Laurent Jeannin, merci d'avoir patienté. Donc, vos autres titres, maître de conférence hors classe en sciences de l'éducation et de la formation, titulaire de la chaire de recherche Transition 2, responsable avec Monsieur Jaillet de la plateforme de valorisation de la recherche en sciences de l'éducation et de la formation, Techno TechSolab, Open Lab, technologique pour la société. Voilà. Ce sont des termes dont nous n'avons pas forcément l'habitude, excusez-moi si je bafouille. Alors je disais en préambule que vos recherches sont très pointues et puis on compte sur vous pour vous mettre à notre portée, Laurent Jeannin. Quelques mots sur ce titre maître de conférence hors classe. Pourquoi hors classe?
Tout simplement puisque à partir de l'évolution de carrière nous permet à un moment donné de pouvoir demander au père
donc à ceux qui font la recherche au niveau national et à l'université d'examiner notre dossier et de pouvoir nous apporter ce titre complémentaire en fonction de la qualité de nos investissements et de nos travaux de recherche. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir être promu à la hors classe dans ce type de programme-là d'évaluation par mes pairs de chercheurs.
C'est-à-dire ça vous donne accès à plus d'encadrement, d'orientation, c'est ça ?
Alors, ça permet principalement déjà de pouvoir proposer à tous mes collègues qui ne sont pas forcément dans mon domaine de pouvoir évaluer, statuer sur mon profil et les travaux que je mène. Et donc, c'est surtout un acte de communication auprès de mes pairs, un acte aussi de synthèse de ma part au niveau d'un moment donné de carrière, pour pouvoir proposer aussi bien à mes collègues chercheurs, mais également à l'université, de pouvoir avoir une vision panoptique d'une partie de ma carrière, sur lequel je demande, d'un point de vue extérieur, à ce que ces collègues-là et l'université m'évaluent en tant que tel, pour pouvoir ensuite voir, au niveau de ma carrière, vers quel champ je vais pouvoir continuer ou influencer. Donc ça va me permettre surtout de pouvoir avoir un regard extérieur sur mon travail.
Très bien. Alors votre domaine, c'est donc l'éducation et la formation, et vous faites partie de l'équipe de CY Transfer.
Alors c'est exactement ce qu'évoquaient Pierre et Isabelle juste avant. L'écosystème qui est en train de se mettre en place à Cergy est un écosystème absolument intéressant à plus d'un titre. Premier titre, c'est de pouvoir faire la rencontre, comme ça a été évoqué par mes deux collègues précédemment, entre les mondes des usagers, c'est-à-dire que les élèves, les enseignants, voire les parents, le monde de l'industrie, du développement, avec les industriels, les PME ou les start-up, et puis notre monde à nous, de la recherche, dont l'objectif est de pouvoir identifier quels sont les éléments qui vont favoriser, quelles sont les conditions qui vont être les plus favorables pour pouvoir enseigner et apprendre dans une perspective de développement de savoir et de développement de compétences dans aussi bien tous les membres de la communauté éducative, donc évidemment les élèves, mais dans les travaux du laboratoire on travaille aussi sur les enseignants et aussi sur la problématique des parents.
L'objectif final, c'est de faire en sorte que enseignants et élèves se sentent bien.
Alors l'objectif final, alors,
et apprennent bien.
Pour obtenir cet objectif final, il va y avoir au moins trois étapes. La première étape, bien évidemment, c'est d'essayer d'identifier quelles sont les conditions qui sont les plus optimales pour pouvoir être dans cette perspective d'être bien ensemble, de vivre ensemble ou d'habiter ensemble un espace de partage où va se partager de la connaissance, du savoir, mais également des règles comportementales, des règles sociales, pour pouvoir développer ensemble une vraie perspective de communauté éducative au travers de tous les membres. Donc ça, c'est la première étape, c'est notre travail d'expérimentation, comment on va identifier les conditions. Le travail qui va être mené également avec CY Transfer, c'est de, maintenant qu'on a identifié ça dans un laboratoire, qu'on a contrôlé des variables, qu'on a mesuré, comment on est en capacité de pouvoir le tester cette fois-ci en situation réelle. Donc c'est ce qu'évoquait Isabelle juste avant, c'est-à-dire qu'on va confronter ce qu'on a testé en laboratoire, dans un espace contrôlé, on va le tester dans une vie réelle. Donc ça c'est cette deuxième étape. Et ensuite la troisième étape, on a pu tester ça en situation réelle, comment on va le faire cette fois-ci dans plus d'établissements, avec une plus grande population, qui peuvent avoir des caractéristiques complètement différentes, et est-ce que les résultats qu'on a pu trouver en laboratoire, en situation naturelle, dans des établissements intégrés au programme CY EdTech Lab, est-ce que, quand on va passer à une plus grande échelle, est-ce qu'on va encore avoir persistance de nos résultats, qui va nous permettre après de pouvoir le travailler à une plus grande échelle?
Oui, c'est le propre même de l'expérimentation.
Exactement. C'est ouais. Le propre même de l'expérimentation où le laboratoire Bonheur, on a une perception de l'expérimentation qui va être très organisée, très phasée pour que on puisse vraiment travailler du laboratoire à la grande échelle, en ne négligeant pas les étapes, pour vraiment être en capacité de pouvoir avoir des éléments assez fondateurs en termes de résultats, pour qu'on puisse viser un plus grand nombre.
Oui, puisque le propre de la recherche, c'est la répétition et arriver toujours au même résultat, c'est ça?
Alors, il y a deux choses. Il y a, tous les grands épistémologues des sciences comme Bachelard évoquaient le fait que pour qu'il y ait science ou pour qu'il y ait savoir stabilisé, il faut qu'il y ait reproductibilité. Mmh. C'est-à-dire qu'on puisse reproduire ce travail de recherche, reproduire ces situations et avoir les mêmes types de résultats. Donc ça, c'est une première partie. Mais aussi, démontrer que dans d'autres situations, on n'arrive pas à avoir les mêmes résultats, c'est aussi en tant que tel un résultat. C'est-à-dire qu'il y aurait d'autres conditions qu'on va devoir appliquer pour pouvoir viser un plus grand nombre. Et c'est aussi cet objectif. Donc il y a l'objectif de reproductibilité, mais il y a aussi l'objectif, si on n'y arrive pas à reproduire, c'est que dans cette condition-là, dans cette situation-là, on a d'autres variables qui viennent influencer et que si on veut passer une échelle un peu plus grande, ben, il va falloir qu'on les identifie absolument avec tous les acteurs du territoire et, des membres de la communauté éducative pour qu'on puisse identifier vraiment quelles sont ces variables à travailler pour passer à une plus grande échelle.
Alors cette plateforme Bonheur, je disais en présentation qu'il y a un S parce qu'en fait Bonheur c'est plutôt un acronyme.
Exactement.
Donc je vous laisse nous le décliner.
Alors je vais vous le décliner. Alors évidemment on a mis un S et vous allez savoir pourquoi à la fin. Le Bonheur, le laboratoire Bonheur, c'est donc une équipe d'accueil de l'université de Cergy-Pontoise et le sens même de l'acronyme c'est le B pour le bien-être, le O pour les organisations, le N pour le numérique, le H pour l'habitabilité, le E pour l'éducation, le U pour l'universalité, le R pour relation et le S pour savoir, avec une petite particularité, c'est-à-dire qu'on va mettre le savoir au pluriel, oui. Parce qu'on va se poser la question, quelque part, si on reprend maintenant l'acronyme dans le sens inverse, comment on va être en capacité de travailler la question de la relation aux autres, de la relation au savoir, de la relation à l'espace, de la relation aux objets, de la relation aux outils numériques, dans une perspective vraiment de bien-être au sein d'organisations éducatives, mais aussi parfois on travaille avec des industriels ou parfois avec des partenaires institutionnels dans des pays francophones ou à l'étranger. Et donc notre ADN, notre colonne vertébrale, c'est vraiment de poser la question de la relation aux différents objets dans une perspective de savoir, dans une organisation, à des fins évidemment d'étudier et de prendre en charge cette fois-ci vraiment l'objet bien-être comme étant un objet de recherche en lien avec les situations d'enseignement, d'apprentissage et de formation.
En quelque sorte, la recherche scientifique des bonheurs.
Alors, exactement. Une recherche scientifique qui va être en capacité de pouvoir identifier les ingrédients du bonheur et les conditions du bonheur dans une perspective de développement professionnel, dans une problématique de développement de compétences et de savoir, en lien avec l'éducation, et quel que soit le niveau, que ce soit de l'école maternelle jusqu'à l'université, et également dans des problématiques de formation professionnelle ou en alternance.
C'est vous-même qui avez souhaité ce mot bonheur qui
a vous. Alors, c'est pas moi-même, non. Puisque un laboratoire, c'est d'abord un collectif.
Ah oui, c'est collégial.
C'est collégial, donc on est 8 enseignants-chercheurs, on est une cinquantaine de doctorants, on a des ingénieurs d'études et des ingénieurs de recherche avec nous, et en fait, c'était tout un travail, pendant presque une année, de travailler les objets de recherche que nous travaillons ensemble, de travailler les méthodologies que nous avions ensemble, et ensuite, on a identifié cet ensemble de nuages de mots, de structuration pour ensuite déterminer quelque chose, un acronyme qui pouvait être percutant, parce qu'on a souvent, on entend souvent le bien-être comme étant un objet soit commercial, soit de développement personnel, mais en fait l'objet en tant que tel de bonheur et de bien-être en tant qu'objet de recherche en tant que tel a peu été utilisé chez nos collègues anglo-saxons avec l'université de Warwick. Ils ont un plan de travail vraiment pour étudier ce problème-là. Nous, en France, on n'en a pas autant que ça, en fait, qui va identifier que c'est ce travail de bonheur dans son approche un peu syncrétique et dans son approche multifacette, de travail, et principalement avec l'axe éducation. On est les seuls en France à vraiment avoir cette approche-là.
Oui, écoutez, moi, je ne suis pas une scientifique, mais ce mot bonheur, évidemment, m'interpelle, donc je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Même si ça reste une notion philosophique, hein,
Ça reste une vision philosophique, puisqu'on peut être entre, depuis Platon, depuis Freud, entre les courants hédonistes et autres. On est d'accord, mais même déjà là, même au niveau de Platon et Freud, il y avait déjà des très grandes distensions entre les courants hédonistes, eudémonistes, entre le fait d'aller chercher le bonheur toujours et d'aller vers une quête d'un bonheur.
Une quête sans fin.
Une quête sans fin, ou ceux qui étaient au contraire dans une quête de surtout ne pas avoir de déplaisir, surtout ne pas être confronté à un malheur, et donc il y avait toujours cette distance-là. Mmh. Et quelque part, nous, on s'est dit, on le voit de plus en plus.
C'est la même démarche.
C'est exactement la même démarche, et on va se placer presque un peu à l'interface. Mmh. Et puis quelque part, il y a eu une situation qu'on a tous vécu, qui était le Covid, la transformation aussi des relations dans les écoles. On a vu toute la difficulté de pouvoir contenir la relation, justement, pendant ces périodes de continuité pédagogique, de distance, de distanciation sociale, d'école à mi-temps, d'école ouverte, pas ouverte. Et donc, ça a donné beaucoup plus de couleurs, justement, le fait qu'on puisse travailler sur ce sujet-là en associant tous les éléments de notre acronyme.
Vous avez peut-être quelques chiffres à nous donner depuis la création de ce laboratoire ?
Alors, on peut avoir quelques chiffres, oui, depuis la création de ce laboratoire. La création de ce laboratoire avec Texolab, c'est plusieurs contrats, pouvoir récupérer et travailler en recherche. On doit avoisiner entre les contrats européens et les contrats individuels le million d'euros de subventions publiques, privées sur ces sujets-là. On a aussi des collaborations avec des sociétés, comme par exemple, encore hier, sur le salon Educatis Educatech, un partenaire historique avec nous, PSI Informatique, une société bordelaise qui rayonne au niveau français, avec qui on a organisé même un concours pour essayer de voir comment on pourrait mettre en place des méthodes rapides, agiles, un peu efficaces, pour tester des outils technologiques. Donc on rentre dans la problématique de CY Tech Lab, mais cette fois-ci en utilisant un autre dispositif. Donc vous voyez, ces programmes-là, c'est 8 enseignants-chercheurs, c'est une cinquantaine de doctorants qui sont répartis dans 13 pays. Puisque c'est aussi une particularité que nous avons, c'est-à-dire que nous travaillons beaucoup à l'international, et donc nos doctorants se retrouvent à être dans 13 pays différents, et donc travaillent à distance, viennent dans des séminaires au sein du laboratoire, au sein de CIRGI, développent des expertises, copartagent, et on les encadre, jamais seul, mais on les encadre aussi avec un collègue toujours étranger, donc on a toujours une perspective internationale et une perspective où on va ancrer nos doctorants dans une problématique de leur terrain local.
Oui, ils apportent la culture.
Ils apportent également exactement leur culture, mais aussi leur perspective de localité, leurs difficultés, que ce soit des difficultés canadiennes ou que ce soit des difficultés de Côte d'Ivoire. On n'est pas sur les mêmes terrains, on n'est pas sur les mêmes enjeux, mais on a toujours le même fil d'études. Et ça nous permet, ce qu'on évoquait tout à l'heure, de travailler ces notions de variables. Qu'est-ce qui rentre en compte? Est-ce que c'est des contextes? Est-ce que c'est des situations? Est-ce que c'est fondamentalement l'accès à la technologie? En Côte d'Ivoire n'est pas le même que chez nous, mais pourtant, quand on met des enfants dans des situations d'exploiter des technologies, est-ce qu'on a quand même des mêmes comportements et on se rend compte que oui, un doctorant qui a soutenu sa thèse l'année dernière a démontré que l'enfant en classe de seconde, face à des simulateurs d'expériences scientifiques en physique, a le même comportement en Côte d'Ivoire qu'on peut l'avoir nous déjà remarqué, on va dire, dans tout ce qui peut être Europe du Nord. Et donc, ça va au-delà des éléments de contexte là, et on touche vraiment des problèmes de difficultés fortes dans les sciences, par exemple, qui sont identiques quels que soient les pays.
C'est là, donc c'est là où votre analyse quantitative et qualitative intervient. Laurent Janin, quels sont vos besoins aujourd'hui ?
Alors nous, on en a énormément. Vous imaginez bien.
Allez-y.
Nous, on en a énormément. Donc, on a envie d'avoir de la jeunesse qui est en capacité de s'intéresser à la recherche. C'est-à-dire que on a aujourd'hui de plus en plus de difficultés, alors qu'on a des programmes de recherche et des programmes qui sont même financés, donc avec des doctorants et des doctorats qui peuvent être financés, des post-doctorants qui peuvent être financés. On a de plus en plus de difficultés à attirer ce type de jeunesse parce qu'elle peut être aussi difficile, parce que ça va intégrer, comme vous expliquiez tout à l'heure, des méthodologies quantitatives, donc un peu de mathématiques derrière, des dispositifs qualitatifs, donc cette fois-ci un peu d'approche de sciences humaines, du terrain. parfois de la frustration. On peut travailler pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, et avoir des résultats qui sont en demi-teinte et qu'on aurait pu espérer être bien meilleurs. Et donc, on a une volonté, nous, on accueille. C'est pour ça d'ailleurs que derrière le titre de Texolab, il y a cette histoire d'Open Lab, c'est-à-dire qu'on a envie d'accueillir des jeunes qui auront envie de se poser la question en stage, en master, en licence, mais pourquoi pas même dans d'autres. On a un espace ouvert, on a du matériel qu'on peut prêter, des enseignants, pourquoi pas des parents, et puis d'un autre côté, des étudiants qui auraient envie de se poser la question, de se dire, mais comment est-ce que la société de demain va être en capacité de gérer cette société de la connaissance qui va être obligatoirement diffus par tous les réseaux qu'on va avoir, et on l'a vécu Covid et post-Covid, une société de la connaissance qui va s'articuler avec une géopolitique assez importante, et tous les jeunes qui ont envie de se lancer dans ce challenge, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils aient fait des masters en sciences humaines, qu'ils aient fait des masters en sciences, nous on les accueille et on les accompagne même au travers 2 masters, par exemple, que nous avons, un master accrédité qui est plus un versant professionnel, un master tech edu qui est plus un versant recherche, et on accueille aussi des étudiants en dernier cycle d'ingénieur ou en dernier cycle de master, pour cette fois-ci leur proposer d'avoir un écosystème où on va leur apprendre à faire de la recherche sur des méthodologies un peu fines, sur des sujets un peu précis, pour vraiment les inculquer, leur inculquer une méthodologie de travail pour qu'on puisse développer cette recherche. Donc, quelque part, on va avoir besoin de jeunes qui sont au niveau master pour pouvoir s'enclencher avec nous sur des problématiques de doctorat. Les jeunes docteurs qui viennent d'avoir leur diplôme, on a aussi des postes de post-doctorants. Donc là, il ne faut pas hésiter. Et également, quelque part, tous ceux qui ont envie de se frotter à cet objet de qu'est-ce que serait l'école de demain, oui, d'un point de vue numérique, d'un point de vue architecture, d'un point de vue de besoin. Et là, on est ouvert on a mis en place des outils pour justement travailler avec tous les acteurs des communautés éducatives et du territoire.
Oui, ça, je suis surprise lorsque vous dites que les jeunes sont moins intéressés par cette recherche, parce que c'est eux qui auront les clés demain de la direction du pays. Donc, quand on sait que l'éducation est tout le temps comme ça en recherche.
Mais c'est, on n'est pas les seuls à être dans cette situation. Les filières de mes collègues scientifiques sont pareilles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un parcours quand même. C'est un vrai sacerdoce de vouloir faire un doctorat. On passe un master, ensuite on s'engage quelque part pour 8 à 10 ans après le doctorat sur un sujet très précis, avec évidemment des frustrations, évidemment du travail, mais une envie de pouvoir vraiment creuser un sujet et d'être le spécialiste du sujet pour permettre à un moment donné de pouvoir infléchir ou apporter des réponses à des questions de société. On n'est pas les seuls aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment une demande, un besoin aussi chez tous les collègues, et là on ne peut que essayer d'aller vers cette démarche et essayer d'ouvrir les portes de l'université à tous les parcours et à tous les profils, au contraire.
Et donc c'est là où ce programme CY EdTech Labs vous mettez beaucoup d'espoir.
Ah ben exactement, parce que quelque part on va faire rencontrer tout l'écosystème, mais on va aussi plonger des élèves, des parents au collège, au lycée, dans une démarche expérimentale. On va aussi les encourager à appréhender aussi la démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de le faire sans eux, on va le faire avec eux. Et si quelque part on peut par classe expérimentée, par établissement dans lequel qui vont être intégrés dans l'expérimentation. Si on peut en embarquer peut-être 10-15% qui vont dans des ateliers scientifiques de ces mêmes établissements, on a quand même gagné beaucoup de choses. Et si après on est en capacité de pouvoir continuer à travailler avec eux, les accompagner peut-être dans des passages de Parcoursup à s'organiser pour aller dans des filières scientifiques, nous on aura gagné aussi notre jeu quelque part de valorisation et de science avec et pour la société, de dissémination de cette culture scientifique au-delà des spécialistes que nous sommes.
Laurent Jeannin, j'ai pour habitude de dire ça à mon émission, mais il faudra que vous reveniez tous les trois pour déjà pour nous rendre compte de CY et Tech Labs.
Avec
et
plaisir.
Puis
avec
je crois plaisir. Qu'on pourrait vous écouter encore longtemps. C'est très intéressant ce que vous nous dites. Vous avez une, parce que là, l'heure tourne, donc voilà, à un moment donné, il faut bien s'arrêter. Vous avez une actualité à nous donner, c'est un colloque Sciences et Savoir.
Exactement.
Savoir au pluriel, non, savoir au singulier.
Savoir au singulier, oui. et science. Alors, c'est un colloque scientifique. Et pour tout vous dire, ça fait 2 ans qu'on travaille avec des collègues en sciences, on va dire dites dures, des physiciens, des mathématiciens. Et en fait, on s'est retrouvés post-Covid à se poser la question de comment la société exploitait nos résultats scientifiques et comment le savoir académique, le savoir de la recherche circulait au travers des sociétés. Et donc, au sein de Cergy et dans un travail plus large même au sein de Cergy, puisque c'est un travail de fond qui est en train de se mettre en place avec une future maison des sciences de l'homme en sciences humaines et sociales qui va se mettre en place à Cergy, où on a réfléchi collectivement, porté par le laboratoire Bonheur, en intégrant du transdisciplinaire, comme évoquait Pierre au départ, des collègues en sciences dures, des collègues en sciences humaines, et où on se pose la question avec des invités comme Edgar Morin, comme Étienne Klein, qui vont nous faire des conférences introductives sur comment circule la science, le savoir ou les savoirs scientifiques. Et donc c'est un colloque scientifique qui sera intégralement à distance, puisqu'on va essayer de regrouper plusieurs pays, plusieurs recherches, plusieurs approches scientifiques, qui aura lieu, si je dis pas de bêtises, c'est le 19 et le 20 avril.
Moi j'ai noté le 18 et 19.
Ah ben c'est vous qui avez raison.
2023,
le 18 avril. Et le 19 avril 2023. Donc on sur le site du laboratoire Bonheur, sur le site de l'université, il y a les liens pour ce colloque scientifique où à un moment donné, là pour le moment il est réservé. C'est tous les chercheurs et tous les participants qui veulent déposer des contributions. Et le 18 et le 19 avril, à l'aide d'un outil de visioconférence, il y aura des conférences introductives très importantes de grands scientifiques. Et après, on traitera objet par objet la circulation, la société de la connaissance, la transformation des savoirs scientifiques en savoir profane, le savoir profane ou le savoir d'expérience transformé en savoir scientifique, et comment la société s'en empare dans les médias, dans les sphères politiques, dans les sphères scientifiques, pour voir comment on va être en capacité aujourd'hui, au travers des réseaux informatiques, des réseaux numériques, de voir comment l'information peut circuler et comment ces savoirs et ces sciences peuvent être fondateurs, on va dire, à une société de demain. Voilà.
Écoutez, très bien. Je suis enchantée d'entendre tout ça, parce que ce sont toujours des comment on va dire, des paradigmes qui font débat, hein, le science et savoir. Oui. Merci infiniment, Laurent Jeannin, pour la clarté de votre intervention. J'ai tout compris, donc je suis très contente, et votre expertise et puis vos préoccupations légitimes. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais juste un mot de conclusion, Pierre Wyst.
Un peu pris au dépourvu, mais de redire qu'en effet, on est à l'écoute des besoins des entreprises, voilà, et celles du territoire en particulier, et qu'on fera tout pour en effet faire en sorte que ces besoins se traduisent en offre de savoir, etc., ouais, de technologie et sur toutes les disciplines, hein, parce que je pense que c'est vraiment la force et la plus-value qu'évoquait Laurent tout à l'heure, qui fait l'avant. Il y a un autre champ qu'on n'a pas complètement abordé, mais qui est celui en effet d'intégrer typiquement notamment dans le numérique par exemple d'autres savoirs, enfin, ou dans des objets en effet là pour le coup techniques ou technologiques, des sciences humaines et sociales. Et il y a pas mal de groupes là, je rebondis justement là-dessus. On a des contacts typiquement avec Orange, et on se rend compte qu'Orange, évidemment, s'intéresse, comme beaucoup de groupes d'ailleurs, hein, à des problématiques qui vont au-delà du pur technologique. Voilà. Et en intégrant des notions justement plus proches des sciences humaines, et c'est là-dessus qu'on doit travailler aussi collectivement.
Merci Pierre, merci Pierre Vist. Isabelle, un mot parce que l'heure tourne.
Alors je dirais juste un mot, je dirais aux chefs d'entreprise, aux jeunes créateurs d'entreprise qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir parler avec nos enseignants-chercheurs. En plus à Cergy, vous aurez la chance de tomber sur des enseignants-chercheurs qui ont l'habitude de discuter avec les industriels.
Très bien.
Donc ils sauront vous écouter et vous comprendre.
Merci, merci Isabelle Hofkans. Laurent Jeannin, un mot également.
Eh bien, merci de nous avoir invités pour pouvoir échanger sur ce sujet qui est, j'espère, la première pierre pour pouvoir commencer à identifier et à structurer l'école et la structure de formation de demain.
Oui, on a bien compris que vous, on retient votre envie de participer à la construction et l'évolution de la société de la connaissance. Merci infiniment. Merci à chacun d'avoir été les invités de l'économie en direct. Merci pour votre mobilisation dans vos projets et la qualité de vos interventions. Merci à Christophe qui est revenu pour la technique. Merci à nos auditeurs, auditrices de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission comme vous le souhaitez avec son podcast sur idfm98.fr. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Mardi prochain, pas d'émission en direct. Vous pourrez réécouter celle du 7 octobre consacrée au réseau. Quant à moi, je vous retrouve en direct vendredi 9 décembre à 9h30. C'est bientôt les fêtes et nous vous donnerons des idées de cadeaux. D'ici là, bon week-end et bonne semaine.